Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Build Yourself. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Mélanie. Salut Mélanie, comment vas-tu ?
Salut Savia, ça va très bien, et toi ?
Mais ça va bien, merci. Contente de pouvoir discuter avec toi aujourd'hui sur le podcast, et notamment du fait de déléguer, parce que je sais que c'est un très très grand sujet. Donc, est-ce que tu te définis comme assistante virtuelle, ou est-ce que tu as un autre terme pour ça ?
Non, assistante virtuelle, ça me correspond totalement. C'est vraiment pour moi un métier qui est très polyvalent, qui touche à peu près à tout, avec des différentes spécialisations avec, en fonction des autres assistantes. Mais c'est vraiment pour moi un métier qui regroupe vraiment différentes tâches, différentes missions par rapport au business. Et même s'il y a un petit peu des fois, comment te dire...
Des trucs pas cool ? Des gens pas sympas ?
Ouais, non. bon, j'ai perdu le mot. Mais si tu veux, il y a des appréhensions. Voilà, il y a des appréhensions par rapport à ce métier au niveau du secrétariat, si tu veux, au niveau quand tu es dans une entreprise. Ouais. On voit vraiment l'assistante comme celle qui va faire le café, les photocopies, si tu veux. Et ça peut des fois engendrer la même chose dans le freelancing, dans l'entrepreneuriat. Alors que c'est vraiment une chose totalement différente et j'essaie vraiment d'instaurer, si tu veux, une nouvelle vision avec mon business, en tout cas, pour partager une autre vision de ce métier-là qui n'est pas du tout la personne à qui on délègue vraiment les tâches ingrates, mais vraiment une personne à qui on partage, si tu veux, toutes les tâches qu'il y a à faire dans le business. C'est vraiment un soutien. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment la vision d'assistante virtuelle.
Ok, ça fait combien de temps que tu fais ce métier ?
Ça fait un an, je viens tout juste de faire ma première année là, cette semaine.
Ah, c'est vrai ? Je ne savais pas, tu ne l'as pas dit.
Ouais.
C'est cool.
Surprise. Ouais, ouais. Ouais, totalement, ouais.
Et du coup, tu faisais quoi avant ?
Alors, il faut savoir que j'étais pas du tout dans le monde de l'entrepreneuriat avant. J'étais dans le tourisme.
D'accord.
J'ai fait des études de tourisme. Ouais, étonnant. mais c'est vrai qu'après après mes études, il y a eu la crise sanitaire qui est arrivée et qui a fait en sorte que j'ai pas pu trouver de travail directement dans ce secteur-là. Donc, j'ai dû enchaîner différents métiers comme dans la restauration, pour faire le ménage. Parce que voilà, faut payer des factures, faut payer le loyer si tu veux, même si ça ne fait pas toujours plaisir. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, il y a un matin où j'ai eu un déclic et je me suis dit, c'est pas possible en fait de faire un métier qu'on n'aime pas tous les jours, se lever le matin si tu veux, à reculons. C'était pas pour moi et ça commençait vraiment à peser sur le mental. Tout ce que je voulais faire, c'est vraiment trouver une solution comme je pouvais le voir sur les réseaux sociaux, donc les personnes qui réussissent à atteindre leurs rêves. Voilà, c'est vraiment quand on va sur les réseaux, c'est ce qui nous attire le plus. Et voilà, je me suis dit, il y a deux choix. C'est soit je continue les petits boulots jusqu'à ma retraite, ou soit je me prends un peu en main, tu vois, je me bouge un peu les fesses et je trouve quelque chose qui me fait vibrer, quelque chose où je peux aider, contribuer avec les autres. Et c'est comme ça, en fait, si tu veux, petit à petit que je suis arrivée dans ce secteur-là de l'entrepreneuriat, d'assistante virtuelle. Alors qu'avant, j'étais pas du tout, en fait, au courant que ça existait, surtout.
Ouais. Mais du coup, je me dis, t'as pas eu envie, parce que très souvent, quand on se dit « je vais me lancer sur le web », on lance nos propres offres, tu vois ce que je veux dire ? On lance une formation, ouais. On lance des coachings. Toi, t'es pas partie sur cette route-là, puisque t'as pris un poste d'assistante virtuelle. Est-ce qu'à un moment donné, t'as considéré le fait, finalement, de vendre tes connaissances de cette manière ?
Alors au début pas du tout, parce que comme je rentrais, si tu veux, dans le milieu de l'entrepreneuriat, j'étais pas je savais pas en fait comment faire, comme toute personne qui débarque comme ça, donc j'ai fait petit à petit. Donc au début j'ai un peu suivi tout le monde, tu vois, au niveau des offres. Je me suis dit je vais essayer de m'adapter avec ce que j'aime, ce que j'aime pas, et c'est juste petit à petit, quand on teste, tu vois, le test and learn qu'on entend souvent, c'est ça. Et petit à petit, tu construis en fait ton business avec des offres qui te correspondent encore plus. Et c'est là que tu te dis, peut-être que ça peut être intéressant, tu vois, de vendre ses connaissances à travers une formation, à travers du coaching. Ça, c'est des choses qui sont actuellement en réflexion chez moi. Mais voilà, c'est tout juste un an, si tu veux, après, pendant la toute première année. Je pense que c'est vraiment, on teste, on évalue, on voit si ça nous plaît aussi, parce qu'on rentre dans un milieu qui est aussi à part que du salariat. Donc c'est vrai que faut s'adapter, on n'est pas c'est vraiment un monde différent.
Ouais.
Mais voilà, c'est au début non, pas du tout, j'ai pas du tout pensé, et c'est petit à petit que voilà, il y a des idées qui font des petits pop-up, si tu veux, dans mon cerveau, et c'est à partir de ce moment-là qu'on commence vraiment à se poser et réfléchir de comment on veut évoluer aussi dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans.
Ouais.
Même si au début on part d'un métier qui n'est pas forcément connu de tout le monde, même dans l'entrepreneuriat, quoi.
Carrément. Et du coup, est-ce que tu as suivi une formation ? Est-ce qu'il faut se former ? Ou est-ce qu'on peut faire ce métier en autodidacte, au final ?
On peut faire ce métier en autodidacte. C'est ce que j'ai fait, moi, en fait, tous mes débuts. Je ne savais pas... J'ai découvert, en fait, si tu veux, ce métier-là à travers une Américaine. Donc, directement, je me suis intéressée à travers son contenu sur les réseaux. Mais il n'y avait pas forcément de formation, si tu veux, payante ou gratuite que je pouvais utiliser pour apprendre comment gérer le temps avec les clients, la communication. C'est des choses à prendre en compte. Mais par contre, je recommande avec mon recul, maintenant qu'on se lance, c'est toujours mieux d'avoir une formation pour vraiment apprendre à s'organiser. Parce que même si on est une personne organisée, avec plusieurs clients, va falloir aussi gérer tout ce qui est imprévu, tout ce qui est urgence. Et ça, c'est super important, parce que chaque client est important. Donc si on commence à oublier, si tu veux, des priorités, ça commence après à nous peser sur le mental, et c'est pas du tout ce qu'on souhaite quand on se lance, quand on veut aider surtout les autres. Donc c'est ce que je recommande. Et puis ça fait toujours pas de mal de se former de temps en temps à un métier.
C'est vrai. Alors du coup, finalement, est-ce que tu peux nous expliquer le genre de tâche, si tu veux, que fait une assistante virtuelle ? Qu'est-ce qu'on peut déléguer du côté formateur ? Et finalement, qu'est-ce que vous pouvez accepter de faire aussi de votre côté en tant qu'assistante ?
Alors, les tâches sont vraiment variées en fonction des assistantes. Il y en a maintenant vraiment beaucoup sur les réseaux depuis quelques années maintenant. Et c'est vrai que chaque personne a sa spécialité, a sa spécialisation, sa passion. C'est vraiment avec les intérêts aussi que ça joue beaucoup. Il y en a qui vont être spécialisés dans les réseaux sociaux. Donc là, ça va être vraiment de la création de contenu sur TikTok, faire des vidéos... sur Instagram, voilà, c'est vraiment un univers complètement différent. Il y en a, ça va être de la rédaction web, il y en a, ça va être de l'administration, de la comptabilité, et en fait les tâches sont vraiment variées. C'est pour ça que je pense qu'on appelle vraiment ça une assistante virtuelle ou une adjointe, tout simplement parce que c'est vraiment des tâches qui sont variées en fonction du business aussi, parce que chaque business a ses propres tâches, elles sont toutes différentes. Après, c'est vraiment de prendre l'assistante qui convient vraiment au niveau du business, au niveau de la spécialisation, et aussi de ses envies, de ses passions. Et c'est ça qui va vraiment faire la différence, si tu veux, quand on va faire des missions ensemble, quand on va travailler ensemble, collaborer ensemble. C'est ça qui va aussi donner de l'envie aux deux personnes, parce que, ou à toute l'équipe, s'il y a plusieurs personnes dans l'équipe, parce que c'est ça aussi le but. Ouais. Donc c'est vraiment des tâches variées. C'est à ça, il faudrait vraiment voir en fonction de l'assistante qu'il y a en face de vous et de se demander voilà, qu'est-ce qu'elle aime faire aussi de son côté et le besoin du business actuel.
Si là, il y a des personnes qui nous écoutent et qui se disent « Ah, mais ça, ça me plaît bien. Je ne me vois pas lancer des formations. Par contre, j'aimerais bien me lancer dans l'assistanat virtuel. » Donc, au moins, on sait maintenant que tu peux te lancer en autodidacte.
Ouais.
Et c'est sûr que c'est mieux de te former un peu pour apporter de la structure, finalement, à ton activité et pour faire en sorte que les choses se passent au mieux. Mais la grande question, c'est souvent combien ça coûte une assistante virtuelle ? Comment je fixe mes tarifs ? Parce que je pense que les gens se font une idée. Genre, je pense que la plupart des gens, déjà, pensent que c'est un grand budget, alors que tu peux commencer à déléguer des petites choses tranquillement, même si tu démarres tout juste, quoi.
Ouais, totalement. C'est vrai qu'on se fait vraiment une montagne, on va dire, pour tout ce qui est délégation. C'est vraiment un très, très gros sujet chez les entrepreneurs et qu'on voit souvent, en fait, c'est les mêmes problématiques. C'est ouais. Le budget. C'est vraiment la chose, en fait, qui bloque. Alors que parfois, juste 3 heures, par exemple, si tu veux, c'est pas un budget très conséquent et on peut déjà tâter le terrain, en fait, voir si on est prêt à déléguer et s'il y a vraiment des choses à déléguer aussi ou si c'est juste parce que on pense qu'on est trop surchargé, mais alors qu'on peut optimiser, nous, de notre côté. Il ne faut pas voir ça vraiment comme une adjointe qui va être là H24, si tu veux, tout le mois, toute l'année. C'est sûr que si on prend quelqu'un comme ça, vaut mieux peut-être voir pour prendre un salarié directement. Mais c'est vrai qu'on peut commencer tout petit, ça c'est comme tout. On peut prendre une assistante pour quelques jours, quelques heures, juste voilà, pour voir si ça nous convient aussi, si c'est la personne qui nous convient, si c'est vraiment une assistante qu'il nous faut et pas une autre ouais. personne. Ça peut être très bien si c'est pour les sites internet, peut-être c'est pas une assistante qu'il faudra. Voilà, c'est vraiment voir ça. Mais voilà, le budget, il faut vraiment essayer d'enlever cette croyance qui est vraiment une grosse montagne, alors que parfois on peut en avoir pour pas très peu cher, mais ça reste quand même un investissement. Mais on peut toujours très bien s'en tirer. Et juste pour tester, en fait, tout simplement.
Carrément. Est-ce que tu as une moyenne, on va dire, du tarif horaire ? Parce que c'est souvent ça. Après, il y a des forfaits, bien sûr. Mais il y a toujours un tarif horaire sur lequel l'assistante se base. Je ne sais pas s'il y a une moyenne, tu vois, dans la pratique.
Ouais. Alors moi, quand j'ai commencé, j'étais partie sur la base de 40 €, si tu veux, de l'heure. La moyenne, c'était vraiment ça, en fait. Quand je regardais les autres assistantes, comment elles faisaient, généralement, c'est le 40 € qui sort le plus. Après, ça peut baisser. Donc, il y en a, ils font des 25 €. Mais après, voilà, c'est chacun voit en fonction aussi de ses charges, de son côté, des logiciels. Voilà, il y a plein de choses à prendre en compte. Mais je pense que la base où tout le monde est à peu près confiant, on va dire, ça serait les 40 €. Puis après, on ajuste, voir aussi avec les personnes qui sont en face de nous si ça convient ou pas, si c'est vraiment aligné aussi avec le travail qui est rendu. Voilà, c'est vraiment quelque chose ouais. à tester. Mais la base, ouais, 40 €, je pense que c'est déjà une très bonne base pour commencer.
D'accord, c'est un bon indicateur.
Ouais.
Forcément, la question suivante, c'est y a peut-être des gens là qui vont se dire « C'est bon, ça m'intéresse, j'ai envie de me lancer. Comment est-ce qu'on trouve, tu vois, des clients ? Comment on fait ?»
La fameuse question des clients. Et ben en fait, ça va être comme tout métier, tout entrepreneur. Il y a différentes façons. Donc, il y a la prospection directe, où on envoie des mails, on appelle. Ça, c'est en fonction aussi de la personnalité, ça convient ou pas. La plus douce, c'est avec la création de contenu, tout simplement, sur Instagram. Personnellement, j'ai trouvé mes clients presque qu'à travers Instagram ou LinkedIn de temps en temps, mais ça n'allait pas forcément plus loin. Et c'est vrai que juste produire du contenu, même si c'est du gratuit, en fait, on crée une relation de confiance avec l'audience, avec la communauté. Et c'est ça qui aide énormément à trouver des clients, ouais. tout simplement. Faut pas voir les clients comme des chèques ou des virements, tu vois, en fin de mois, mais vraiment comme des personnes qui... Enfin, c'est des humains, ils ont un besoin, ils ont envie aussi de développer leur entreprise. Et c'est vraiment trouver le pourquoi, en fait, le petit point qui fera la différence avec nos services, tout simplement.
Ouais, c'est vrai que c'est un truc pour le coup qui est important. Je sais pas si toi t'as déjà démarché.
J'ai démarché par mail surtout, donc j'envoyais des mails. Quand j'ai commencé, je savais pas du tout créer du contenu, tout ça. Pour moi, c'était vraiment une montagne. Et c'est vrai que envoyer des mails, je me suis dit pourquoi pas, je vais tester. Et donc j'en ai envoyé beaucoup, un peu tous les jours. c'est pas le premier canal, je dirais, qui est très efficace. On peut trouver des clients, ça a marché de temps en temps, mais ça reste quand même très peu, contrairement aux réseaux sociaux qui, là, peuvent vraiment aider parce qu'on peut vraiment montrer l'expertise, le côté humain qu'à travers un mail, par exemple, on propose, si tu veux, les services. Ouais. Et ça n'aide pas forcément, en fait, à la personne qui est en face de nous de nous découvrir nous en tant qu'humain et pas nous en tant que démarcheur, si tu veux, pour du travail.
Et du coup, aujourd'hui, c'est les gens qui te trouvent via Instagram, par exemple, toi, tes clients?
Ouais, totalement. Au début, je démarchais et puis au final, tu vois, ça s'est inversé. C'est vraiment la création de contenu sur le long terme qui aide, en fait, tout simplement à les trouver. Et puis après, tout le monde, du bouche à oreille, tout le monde commence à s'intéresser aussi. Quand on a vraiment le besoin de déléguer, on pense directement à une adjointe. Et c'est là qu'on commence à aller chercher sur Instagram. Et puis après, quand on demande à notre entourage, tu vois, à nos amis entrepreneurs, par exemple, là, c'est pareil, on demande s'il y a des recommandations, si on connaît cette personne. Et ouais, donc Instagram, bouche à oreille, c'est vraiment le numéro 1, je dirais.
Et aujourd'hui, tu gères combien de clients ?
Aujourd'hui, à l'heure actuelle, j'en ai 9.
D'accord, c'est énorme. Je m'en rendais pas compte. Je me rendais pas compte du tout. Alors, pour la petite histoire, parce que du coup, on travaille ensemble, et quand je te demande des trucs et tout, t'es tellement réactive, je me suis dit, je sais pas pourquoi, je pense qu'elle doit avoir 4-5 clients. Genre, je vois que t'as du taf, et tu vois que je suis pas la seule, et je me dis, la 9, ok, d'accord.
Ouais, j'en ai 9, ouais. Ouais, 9 étalés, tu vois, en fonction des forfaits, en fonction des heures qui sont étalées dans le mois. Et après, tout est une question d'organisation et de communication. C'est vraiment, je pense, la base pour créer une équipe, pour bien collaborer. Et c'est vrai que voilà, ouais, 9 pour l'instant.
Quand on a autant, si tu veux, de clients à gérer, ou même quand on en a 3-4 en vérité, comment est-ce qu'on s'organise? Comment toi, par exemple, pour donner une idée concrète, comment tu t'organises à la semaine ou au mois, je ne sais pas, la semaine c'est peut-être plus réaliste, pour, tu vois, être là pour chacun de tes clients?
Alors en fait, de mon côté, ce que je fais, c'est que je prépare mon planning tous les mois. Donc chaque fin de mois, je prépare mon planning du mois suivant. Donc en fait, je sais exactement combien de personnes à combien d'heures en fait dans le mois et quand est-ce que je vais travailler pour mes clients. Et je pense que c'est super important de mettre des créneaux en fait, tout simplement, et pas de s'éparpiller à droite à gauche. Donc ça peut m'arriver quand il y a des urgences, mais j'ai quand même une base qui me permet de savoir par exemple demain à 11h avec qui je vais travailler et pourquoi faire. C'est pour ça que je demande souvent à mes clients de me préparer des listes, si tu veux, de tâches à faire à l'avance avec des deadlines. Comme ça, moi aussi, je peux adapter le planning de mon côté, ce qui permet aussi d'avoir une fluidité dans les tâches, dans tout ce qu'il faut faire en fait pour les objectifs du mois. Et moi, de mon côté, je peux gérer tous les clients en même temps et même des urgences si il y en a à n'importe quelle heure dans la journée.
Ça arrive régulièrement, les urgences?
Ça peut arriver, ouais. Donc des problèmes de logiciel, ça peut arriver de temps en temps, ouais.
Ok, d'accord. Bon, ce qui est intéressant, c'est que du coup, en tant que client, je n'ai pas du tout remarqué que tu avais 9 clients. Donc c'est que tu te débrouilles très bien niveau organisation.
c'est une bonne chose, du coup.
Exactement, c'est qu'au final, tu gères bien le truc et tu vois, t'es réactive, t'es dans les temps. Donc je pense qu'effectivement, c'est surtout une question d'organisation avant d'être un nombre de clients, etc. C'est vraiment la façon dont tu gères.
Ouais.
Je crois que c'est le plus gros challenge d'ailleurs dans ton métier.
Ouais, vraiment l'organisation, c'est si on n'est pas organisé, on peut pas en fait gérer autant de clients, même si c'est avec des toutes petites heures. Au final, il y a toujours quelque chose à modifier, s'il y a des visuels à modifier, s'il y a des automatisations à modifier, s'il y a des mails à envoyer en dernière minute. Si on n'est pas organisé, en fait, on va finir à travailler à 23h si tu veux le soir, on va travailler le week-end. Et je pense pas que si on devient entrepreneur, c'est pour travailler 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Donc c'est vrai que l'organisation, c'est vraiment le point clé, je pense, pour être une assistante et pour pouvoir gérer en fait tout le flux de travail qui se passe tous les jours.
Finalement, quand on se place côté entrepreneur, qu'est-ce qu'il est nécessaire de faire ou de mettre en place pour recruter une assistante virtuelle, ou même avant, je dirais peut-être, de recruter quelqu'un?
Avant toute chose, quand on commence à penser à déléguer, à recruter quelqu'un dans son équipe, ce qu'il faut faire, c'est quelque chose de tout simple, mais que personne ne veut vraiment faire, ce qui est un peu chiant à faire, je l'avoue, c'est en fait d'analyser toutes les tâches qu'on fait au quotidien dans le business. Donc ça, il y en a des tonnes, mais il faut vraiment les mettre à plat, donc sur papier, sur logiciel, n'importe, et voir en fait ce qu'on aime faire, ce qu'on n'aime pas faire. Donc c'est un premier pas, mais aussi ce qu'on aime pas faire ou on n'est pas forcément, si tu veux, très compétent pour avoir quand même de très bons résultats derrière. C'est quelque chose qu'il faut vraiment analyser avant de demander à quelqu'un de rentrer, si tu veux, dans l'équipe, parce que ça nous permet aussi de déterminer quelle personne on va prendre. Il y a beaucoup d'assistantes, il y a beaucoup de personnes à qui déléguer. Par exemple, si c'est un problème uniquement sur Instagram, on va peut-être pas prendre une assistante, mais quelqu'un, un community manager, quelqu'un qui est vraiment spécialisé dans ce domaine-là. C'est le but, en fait, c'est vraiment d'analyser en fait tout ce qu'on fait. C'est pénible, je l'avoue, hein, c'est pénible de tout regarder, surtout quand on a beaucoup de tâches. Mais voilà, avant de recruter, c'est vraiment quelque chose de primordial, parce que sinon on peut finir avec la mauvaise personne, en fait, et ça peut amener une mauvaise collaboration et des tensions aussi au sein de l'équipe. Et c'est pas non plus le but. Le but, c'est qu'il y ait une fluidité, que tout le monde s'amuse en soi. Le business, c'est aussi pour s'amuser. Et tout part, en fait, de l'avant-délégation et pas de l'après. Ouais. En listant les tâches, en regardant un petit peu ce qu'on aime faire, ce qu'on n'aime pas faire. Et après, à partir de ce moment-là, on peut faire un petit bilan, si tu veux, de tout ça, en fait.
Ouais, c'est vrai que c'est un truc qui est important et je pense que les gens ne prennent pas forcément ça en compte et ils se disent « je vais aller chercher une assistante ». Finalement, ils prennent même pas le temps de se poser juste pour se dire « qu'est-ce que je vais lui déléguer ?»
C'est ça.
Qu'est-ce que je vais la laisser faire
Le plus important.
Ouais, voilà. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé finalement d'avoir des appels découvertes où la personne elle est venue en mode touriste, tu vois.
Si, ça m'est énormément arrivé que la personne arrive en me disant « je sais pas quoi déléguer, mais je veux déléguer ». À partir de ce moment-là, on ne peut pas faire grand-chose à part juste d'analyser ce qu'il faut faire, parce qu'il faut savoir que quand on veut déléguer, on demande à une personne extérieure au business de rentrer dans le business. Donc ça, c'est comme en entreprise quand on cherche un job, si tu veux, quand on rentre dans un nouveau travail, c'est pas à la personne qui rentre dans le travail de tout préparer en amont pour son arrivée. C'est quelque chose... C'est au dirigeant, si tu veux, c'est au manager de le faire. Et donc, c'est pareil dans l'entrepreneuriat, dans le freelancing, ça va être la personne qui gère le business à l'accueillir, en fait, tout simplement.
C'est hyper important ce que tu dis, ouais. C'est un bon rappel de... C'est important de se positionner en tant que chef d'entreprise, tu vois, de prendre ses responsabilités et de se dire que c'est toi qui as les rênes de ton business. C'est toi qui prends les décisions et les gens sont là pour te soulager et t'aider, mais ils vont pas faire le job à ta place.
Ouais, totalement. Ouais. C'est... De toute façon, quand on veut déléguer... Quand on fait rentrer quelqu'un dans l'équipe, il y a directement cette posture de leader, cette posture de chef d'entreprise qui va devoir monter. Parce que la personne qui va rentrer ne va pas forcément tout savoir sur le business, même si elle s'y intéresse énormément. Au bout d'un moment, il y a des aspects qu'elle ne va pas forcément suivre, qu'elle ne va pas forcément comprendre, parce qu'en fait, on n'est pas directement dans la tête du chef d'entreprise. On est dans notre tête, on veut faire le maximum. Mais après, si on n'a pas tous les éléments derrière qui nous permettent de faire le travail correctement... Là, après, il y a un blocage.
On est d'accord. Et du coup, cet aspect-là qui est indispensable de préparation, il est suivi aussi finalement par un... Parce que c'est beaucoup de communication, je trouve. Donc, c'est quoi tes conseils à toi pour que l'expérience se passe au mieux des deux côtés ?
Je dirais vraiment la communication, comme tu viens de le dire, tout simplement. C'est quelque chose de très, très, très important et qu'on sous-estime, en fait. Dans le business, on peut dire qu'on n'a pas le temps toute la journée. On est vraiment overbooké, on n'a pas le temps. Il y a diverses tâches qui commencent à arriver comme ça, comme des pop-up. Mais si on ne prend pas le temps de communiquer avec la personne avec qui qu'on a fait rentrer, en fait, dans le business, ça va être très compliqué pour elle de s'intégrer, de vouloir aussi travailler avec cette personne. Parce qu'elle va être perdue, elle va pas vouloir... Il n'y aura pas de considération, si tu veux. Et ce n'est pas le but. Le but, c'est de créer une équipe, que tout le monde s'entend, que tout le monde s'amuse, comme je disais précédemment. Et vraiment très, très, très important, donner les feedbacks. Donc vraiment la communication, dire ce qui a été bien, ce qui n'a pas été bien. Donc vraiment les deux aspects et pas forcément ce qui n'a pas été bien seulement et oublier un côté. C'est vraiment les deux aspects pour qu'on puisse vraiment avoir toutes les cartes sur la table. Et de se dire, maintenant, j'ai fait une erreur sur ça, je vais me rectifier, ou ça, j'ai fait ça bien, je vais continuer. C'est vraiment comme partout, en fait, tout simplement, c'est dans tous les aspects, je dirais, de la vie, en fait, même pas que dans le business, c'est la communication qui reste le premier pas, en fait, sur le podium, de vraiment dire qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qui a été bien fait et pas bien fait, pourquoi c'est important et le ressenti aussi des personnes. Généralement, on dit, bon, bah, ça, ça a été bien fait ou ça, ça n'a pas été bien fait. Mais on ne dit pas aussi ce qui a été derrière. Donc, est-ce que la personne s'est sentie frustrée? Est-ce qu'elle s'est sentie, je ne sais pas, sereine? Voilà, c'est vraiment des choses à dire pour que la personne ait de la considération en disant, bah, je suis très, très contente de travailler avec cette personne. Je suis, voilà, de la reconnaissance, de la gratitude. C'est le but aussi parce que sinon, après, bah, le business va stagner. Et sans savoir pourquoi, on va se poser les questions, bah, pourquoi ça stagne alors que tout allait bien. Et c'est à partir de ce moment-là que après ça fait effet boule de neige et pas dans le sens positif. Et c'est pas ce qu'on recherche.
Je suis d'accord. Je pense aussi que je rajouterais l'élément patience. Alors, plutôt peut-être d'un point de vue entrepreneur, dans le sens où... Alors déjà, c'est dur, bien sûr, de faire entrer quelqu'un dans ton business alors que tu travailles seul depuis un moment. Mais il faut aussi accepter que forcément, au début, ce ne sera pas fait comme toi, tu as l'habitude de le faire.
Ouais.
Et donc, c'est important d'accepter en fait, qu'il y aura peut-être des petites erreurs ou des petites retouches ou des petites machins, que c'est pas de la perte de temps, parce que ça c'est un truc aussi qu'on a tendance beaucoup à se dire de notre côté, si je le fais moi-même ça ira plus vite, oui mais non en fait, pense long terme,
c'est ça,
ça c'est un gros challenge tu vois, et je trouve que c'est un truc avec lequel il faut faire la paix, de se dire le plus important c'est que ce soit fait, et dans tous les cas, la personne, tu lui expliques les choses une fois, elle essaye, peut-être qu'elle va faire quelques erreurs, elle va réessayer, et après elle maîtrisera le truc, et puis au moins c'est un sujet, une tâche sur laquelle tu n'auras plus à mettre les mains tu vois.
C'est ça, exactement. On reste tous des humains, donc tout le monde a des compétences en fonction aussi de l'expérience. Le but, c'est vraiment d'être patient, de montrer en fait le chemin, parce qu'on peut demander une tâche, mais si la personne ne l'a jamais fait, il faut quand même lui montrer le chemin. Donc tout ce qui est des process aussi aide à la patience, qui nous permettent aussi de gagner du temps, et c'est plus du tout une perte de temps à ce niveau-là, c'est vraiment... ce qu'on pourrait appeler la perte de temps, c'est vraiment... de mettre en place la collaboration, vraiment de mettre tout de A à Z, tout à plat, donc tout ce qui est process, toutes les missions à déléguer, etc. Mais ensuite, une fois que tout est prêt, la personne peut très vite devenir autonome s'il y a tout ce qu'il y a derrière, donc s'il y a tous les process, s'il y a vraiment toutes les missions bien détaillées, la personne après elle peut tout faire elle de...
Ouais.
Toute seule en fait, elle est autonome et il n'y a plus besoin d'interaction si tu veux par mail, sur Slack, par WhatsApp, de comment on fait ça, où est-ce que je peux trouver telle photo, ou voilà, c'est vraiment des choses à prendre en compte. Et puis après, c'est vraiment un gain de temps, en tout cas, pour le business.
Ouais, je suis d'accord. Bon, d'où l'importance d'avoir un CEO Day et de créer des SOP, deux ressources pour lesquelles j'ai un contenu gratuit à télécharger, n'est-ce pas merveilleux? En tout cas, merci beaucoup, Mélanie, d'avoir pu apporter ton expérience, finalement, et surtout... peut-être dédramatiser, tu vois, ou relativiser un peu le fait de déléguer, c'est quelque chose qui est hyper important, et à un moment donné, de toute façon, tu as besoin de te concentrer sur ta zone de génie, si tu veux un peu de liberté dans ton business, donc c'est bien que tu puisses apporter ton expérience là-dessus. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur Instagram, pour les personnes qui ont envie d'en savoir plus?
Alors, sur Instagram, on peut me retrouver sous le slogan mc.virtualassistante.
Ok, super. De toute façon, ce sera dans les notes de cet épisode. Merci encore, Mélanie, pour ton temps et puis pour ton partage d'expérience.
Merci à toi.
J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura permis d'en savoir plus sur le métier d'assistante virtuelle, mais aussi quelles sont finalement les premières étapes pour apprendre à déléguer sereinement. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à le partager autour de vous. N'hésitez pas également à mettre 5 étoiles et un petit avis positif sur Apple Podcast ou Spotify. Et moi, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50. Luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.